Vie locale et associative. Culture et société. Politique. Et même du sport. Du lundi au jeudi, le pédalo, la quasi-quotidienne d'infos estivales de Radio Campus Angers.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le pédalo sur les ondes de Radio Campus Angers. Pour terminer cette semaine, on va parler aujourd'hui littérature puisque je me suis entretenu avec Marion McGuinness, autrice et traductrice. Elle a sorti récemment un ouvrage sorti il y a 2 jours, Toi aussi tu peux changer le monde. Mais je vous propose d'écouter ça tout de suite. Je suis au téléphone avec Marion McGuinness, autrice et traductrice. Elle a écrit plusieurs ouvrages, dont le très récent, puisqu'il est sorti il y a 2 jours, Toi aussi tu peux changer le monde, une série de 80 portraits de personnalités inspirantes de moins de 30 ans qui portent un engagement et contribuent à faire évoluer le monde. Bonjour Marion.
Bonjour Thibault, merci de me recevoir.
Alors tu as écrit plusieurs guides familiaux avant ça. Pour ce livre, il s'agit aussi d'une sorte de guide en un sens, mais dans un format assez original. Qu'est-ce qui t'a donné envie et qu'est-ce qui t'a poussé à l'écrire ?
Alors, effectivement, j'avais déjà écrit plusieurs guides familiaux ou qui étaient plus pour les enfants ou particulièrement pour les parents. Mais là, je voulais vraiment m'adresser à des ados et à des jeunes. C'est une cible que j'avais pas encore beaucoup traitée. Peut-être que c'est aussi dû au fait que mon aîné va avoir 10 ans et que je vois qu'il s'ouvre à une certaine conscience politique et citoyenne. Et c'est vrai que j'aime bien l'idée qu'il puisse grandir dans un monde où il y a des modèles qui sont vraiment inspirants dans plein de thèmes différents. Et cette recherche de cause et d'engagement de jeunes m'a vraiment mené très très loin, à la fois en termes de pays et puis en termes de lutte et de combats différents. Et je me suis vraiment rendu compte que la valeur n'attend pas le nombre des années et que les jeunes de moins de 30 ans sont vraiment porteurs d'un avenir optimiste pour le monde entier.
Tu as pu le voir avec ton fils, peut-être aussi avec ses amis. Pour toi, ouais, c'est une génération actuelle de jeunes ou de très jeunes qui ont déjà une certaine conscience politique, plus que ce qu'on pouvait avoir avant.
Alors, je ne sais pas si c'est plus qu'avant, mais je suis persuadée que les outils numériques, donc les réseaux sociaux, etc., ont beaucoup aidé à se rendre compte de certaines choses, à prendre du recul sur une situation et avoir une vision un peu plus globale d'un problème qu'on n'avait peut-être pas nous. Alors moi, en tout cas, j'ai 37 ans, mais c'est vrai que j'ai grandi, il n'y avait pas Internet, donc on était dans notre quotidien très, très local. Et maintenant, les enfants et les ados ont beaucoup plus la possibilité de se rendre compte de ce qui se passe à l'échelle du monde. Et c'est pour ça que des personnes comme par exemple Greta Thunberg, qui est vraiment très jeune, a pu aussi se faire connaître, se faire entendre grâce aux outils numériques, aux réseaux sociaux, et puis à cette prise de conscience planétaire. Je pense qu'il y a eu beaucoup de facteurs qui se sont rejoints ces dernières années pour favoriser cette prise de conscience, qui est pour moi en tout cas cruciale.
Tu parles de Greta Thunberg, qui est un des premiers portraits de ce livre. Elle a été régulièrement critiquée, et notamment de par sa jeunesse. Finalement, ce livre, c'est un peu prendre le contre-pied de ça et revendiquer le fait que la jeunesse n'est pas une mauvaise chose.
Oui, alors c'est vrai que moi, c'est quelque chose, en tant que parent et en tant qu'adulte, qui m'a toujours gênée, cette tendance à ce qu'on appelle l'adultisme. C'est une discrimination qu'on fait en fonction de l'âge, sous prétexte que quelqu'un est jeune. Finalement, on ne pourrait pas le prendre au sérieux parce qu'il n'a pas assez fait d'études, ou il n'a pas eu une carrière professionnelle, ou il n'a pas assez trimé ou payé d'impôts. Pour moi, ça me dépasse complètement. Alors, il faut dire que si, moi, je suis une femme, et c'est vrai que jusqu'à mes 30 ans environ, j'ai souffert personnellement d'une certaine discrimination dans le monde du travail. Je n'étais pas prise au sérieux. Donc, je pense que je garde un peu cette trace-là aussi de, de, de cette discrimination qu'on peut subir. Et je suis persuadée que les jeunes, alors effectivement, ils n'ont pas la même expérience de vie que nous parce que ben voilà, on n'a pas vécu autant en termes de durée, mais l'intensité compte énormément et l'engagement les fait mûrir d'une façon assez incroyable. Et on se retrouve avec des jeunes qui ont parfois 10 ans, 20 ans de moins que certains adultes et qui ont un langage et un discours beaucoup plus réfléchi et abouti sur certains sujets.
Cet adultisme, pour toi, c'est un phénomène qui a toujours été là, ou est-ce que, de part peut-être la mise en avant via les réseaux sociaux de cette jeunesse plus engagée, plus militante, c'est quelque chose qui se développe aussi en contre-pied à ça ?
Alors, je pense que ça a toujours été un petit peu là, au fond, mais effectivement, jusqu'à présent, les jeunes avaient pas vraiment de moyens de s'exprimer. Mais on sait bien, je pense en tout cas que grâce à Internet, nos réseaux sociaux, qui sont vraiment des outils qui ont été compris immédiatement par les jeunes, et on sait que les personnes plus âgées triment encore un petit peu, certains même ne comprennent toujours rien à tout ça. Du coup, c'est vraiment des outils que les jeunes se sont appropriés très très vite, et ils ont pu comme ça éditer leurs propres règles de fonctionnement. Et c'est grâce aux jeunes que finalement, que ce soit Twitter, Instagram ou les plus récents TikTok, même moi je suis un petit peu larguée dessus, ce sont eux qui mènent la danse et ce sont eux qui décident des usages qui se font maintenant en termes de communication, et c'est vraiment leur point fort. Ils ont un temps d'avance sur finalement les anciennes générations parce que ils sont nés avec tout ça, ils sont nés avec ces outils et ils savent s'en servir. Et ce qui est vraiment génial, et ce dont je me suis vraiment rendu compte en écrivant ce livre, c'est qu'ils s'en servent pas pour leur propre petit plaisir ou leur propre petite gloire, ils s'en servent finalement pour donner la parole à des gens, ils s'en servent pour faire quelque chose qui est plus grand qu'eux et qui les dépasse, pour défendre leurs valeurs, et ça c'est quand même complètement formidable.
On retrouve un peu cet aspect-là dans le livre sur les modes de consommation des réseaux sociaux. On retrouve des influenceurs et influenceuses à suivre. Il y a des liens pour chaque portrait qui renvoie vers leur réseau. C'était indispensable de prendre en compte ces modes de consommation pour le livre, mais aussi d'une manière générale à côté.
Je pense effectivement, alors pour le livre, moi j'ai vraiment voulu m'adresser à des jeunes qui ont finalement le même âge que les jeunes que je présente dans le livre, donc en gros, pré-ado, ado, jusqu'à une trentaine d'années. Alors évidemment, si on a plus de 30 ans, on peut tout à fait lire le livre, et j'invite toutes les personnes plus âgées à le faire. Mais c'est vrai que proposer des influenceurs à suivre, pour moi, c'était indispensable, parce qu'il y en a vraiment énormément. Quand on ouvre YouTube ou Instagram, ou si vous voulez, c'est vraiment très très chargé, et je pense que certains jeunes, à moins d'être vraiment très très impliqués dans une cause, n'ont pas forcément le recul ou la maturité pour trouver la bonne personne à suivre, c'est-à-dire la personne qui va vraiment être inspirante, motivante et avec un discours intelligent. Et donc je voulais proposer des personnes à suivre pour aller plus loin dans un certain thème selon ce qui nous appelle particulièrement, et proposer des influenceurs francophone, évidemment, parce que la cible du livre est francophone, pour aller plus loin sur certains thèmes, donc vraiment des influenceurs intelligents, j'ai envie de dire.
Je trouve ça chouette d'arriver à prendre en compte cette consommation des réseaux sociaux et à l'intégrer complètement. Pour les parents qui seraient un peu largués, qui n'arriveraient pas à suivre, que ça soit donc les choses plus récentes ou même toutes ces notions de YouTube, d'influenceurs, comment toi tu as dû le voir aussi en tant que mère, comment est-ce qu'on peut arriver à l'appréhender si on n'en a pas du tout l'habitude?
C'est vrai que c'est pas évident, même moi je me considère assez douée dedans parce que je me sers tous les jours des réseaux sociaux, ne serait-ce que pour communiquer sur mes livres ou mes parutions, mais je me suis rendu compte en fait que mon fils qui a 10 ans donc regardait quelques vidéos sur YouTube, notamment pendant le confinement par exemple, et pour lui, si c'est sur Internet, c'est que c'est vrai. Et ça, je me suis rendu compte que ça pouvait être hyper dangereux, parce que c'est pas parce que quelque chose est sur Internet que c'est vrai, comme si c'est dans un livre ou si quelqu'un nous le dit dans la rue. Et c'est vrai que la notion de vidéo sur YouTube, c'est tellement professionnel que l'enfant va se dire, si on me le dit, c'est que c'est vrai. Et je voulais proposer donc des influenceurs ou des gens à suivre qui ont été finalement un petit peu contrôlés pour la véracité de leurs propos et de sérieux de leurs discours, parce que c'est pas forcément évident de se démêler un peu de tout ça, surtout que ça va très vite. Moi, j'en parlais tout à l'heure rapidement, TikTok, c'est un nouveau mélange entre une plateforme de communication et puis un réseau social. Moi, j'y connais rien. Si mon fils voulait être là, dessus dès demain. J'avoue que je prendrai le temps certainement de m'y mettre, mais c'est un petit peu lourd parfois toutes ces avancées, de devoir suivre toute l'avancée de la technologie. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de miracle pour les parents qui voudraient contrôler ça, si ce n'est peut-être de regarder avec son enfant la notion d'écran partagé. Moi, je trouve qu'il est très très important, parce que si on regarde une émission ou qu'on écoute un podcast avec son enfant, c'est plus facile de se rendre compte si la personne dit n'importe quoi, ou que ça peut devenir éventuellement une mauvaise influence pour son enfant, et puis après en discuter pour aider ses enfants, ses ados à construire leur propre esprit critique. Ça, je pense que c'est indispensable.
Je vais revenir un peu sur le livre. Donc, il est découpé en 4 parties. On trouve Des jeunes pour un avenir plus vert, Les icônes de l'acceptation de soi, Les défenseurs des droits et Une immense générosité. Comment est-ce qu'il a été conçu, ce découpage ?
Alors, au début, j'ai un petit peu lu, regardé, écouté tout ce qui me venait. Vraiment, j'ai amassé. Et j'ai essayé de trouver un petit peu un découpage logique. Alors, c'est un petit peu comme quand on fait des dissertations au lycée ou à la fac. Il faut choisir un plan, il n'est pas forcément ni parfait ni unique, mais pour moi, ce modèle-là m'a semblé logique. Il fallait absolument mettre, à mon avis, l'écologie en avant, parce que c'est vraiment une des causes à la fois les plus répandues et les plus urgentes chez les jeunes. Donc pour moi, c'est vraiment un sujet incontournable. Et de même, finalement, que toutes les questions d'acceptation de soi, les questions d'identité, que ce soit une identité sociale, sexuelle, et puis la question de générosité, parce que je me suis rendu compte que ces jeunes, qui sont pas forcément ni très riches, ni très influents, font tout à leur échelle, à leur mesure, sans attendre d'avoir fait des grandes études et d'avoir un gros salaire pour changer les choses. Et c'est vraiment des thèmes qui m'ont paru flagrants au milieu de toutes mes recherches.
Et justement, alors, ces recherches, comment elles ont été faites ? Donc, il y a 80 personnes. Tu les avais toutes en tête ? Il y en avait qui étaient évidentes ? Il y en a que tu as rajoutées en faisant ces recherches ? Comment est-ce que ça s'est passé ?
Alors oui, alors c'est vrai qu'il y a certaines figures qui sont un petit peu incontournables. On en parlait rapidement tout à l'heure. Bon, Greta Thunberg, je pense qu'on ne peut pas faire un livre aujourd'hui sur les jeunes influenceurs sans parler d'elle. Il y en a d'autres aussi, Malala évidemment, qui est incontournable, ou Emma Gonzalez qu'on a vu beaucoup concernant la violence par arme à feu aux États-Unis. Donc j'avais un petit peu ces piliers, j'ai envie de dire, ces gens qui étaient vraiment très très connus et que je voulais insérer dans le livre. Après, j'ai fait un vrai travail de parité. J'ai essayé de proposer autant de filles que de garçons, et puis également le plus de nationalités possible, et de langues possibles, et de luttes possibles. Donc j'ai vraiment essayé de chercher et de fouiller pour trouver le plus de personnalités différentes, pour que tous les jeunes et tous les lecteurs possibles puissent se trouver leur propre héros à eux.
Est-ce que, au fur et à mesure, tu as montré certaines de ces personnes à tes enfants ? Est-ce que, pour voir s'ils les connaissaient, si ça leur parlait ? Ou est-ce qu'ils ont vu le livre une fois fini ?
Alors, je dois dire que mes enfants, ils ont l'habitude, que c'est vraiment mon travail à temps plein d'écrire des livres, donc ils ont l'habitude de me voir en train d'écrire des livres, ils font plus trop attention. Mais j'avoue que, pour une fois, mon aîné, donc de 10 ans, est très intéressé par ce livre, ce qui n'est pas le cas quand j'écris un roman, par exemple. Il y en a pas grand-chose à faire en général. Et il était particulièrement intéressé par Adrien Nougaret et le Z-Event, parce que jeux vidéo, et que forcément c'est son univers. Et il était très très fier que sa maman puisse citer Squeezie et Norman dans un livre, alors que ce sont ses youtubeurs préférés.
C'est vrai que ça avait eu un écho assez conséquent, le Z-Event, d'avoir des youtubeurs jeux vidéo donc qui avaient fait un live caritatif de plusieurs, je sais plus, de beaucoup d'heures. Pareil, ce genre d'événements qui ont eu lieu et qui ont eu une répercussion médiatique assez importante, il fallait le mettre dans le livre.
Alors, pour moi, c'était important d'essayer de toucher le plus de thèmes possible. Et c'est vrai que le jeu vidéo, je trouve que c'est un sujet qui est quand même beaucoup victimes de discrimination, notamment de la part des adultes qui ont tendance à regarder ça un peu de haut et à donner et à mettre sur le dos des jeux vidéo tous les malheurs du monde et toutes les violences du monde. Et je voulais vraiment montrer un aspect et un impact positif du jeu vidéo et de l'industrie du jeu vidéo sur le monde entier, parce qu'effectivement le The Event, ils en sont déjà à 3e édition. Alors cette année, je ne pense pas qu'il y en ait à cause de la pandémie, mais en septembre dernier, leur 3e édition, ils ont quand même levé plus de 3 millions d'euros pour l'Institut Pasteur. C'est quand même pas négligeable. Et tous les gens qui ont tendance à prendre pas très 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 au sérieux le jeu vidéo, parce que bon, bah c'est voilà, c'est pour s'amuser, c'est du jeu, et puis bon, c'est pas pour de vrai. Finalement, on se rend compte qu'il peut y avoir un véritable impact, et c'est fondamental. Quelle que soit sa passion, quel que soit ce qui nous porte, finalement, on peut s'en servir pour faire le bien dans le monde.
Alors, dans le livre, on trouve également régulièrement, pour chaque thématique, des quiz, des défis. C'était important d'avoir aussi cette notion d'interactivité dans le livre pour pousser un peu les lecteurs à se mobiliser.
Oui, c'est vrai que quand on parle aux enfants ou aux jeunes, moi je trouve ça important de les impliquer, qu'ils puissent vraiment s'approprier le livre et en faire un petit peu leur livre de chevet. Donc on peut le compléter avec des photos, en remplissant des quiz ou des notes personnelles. Je voulais vraiment effectivement sortir de cette idée un peu magistrale et dogmatique de je vous fais une leçon sur ce que vous pourriez faire, mais plutôt voici des outils, à vous de vous l'approprier pour changer les choses. Parce que c'est vrai qu'il y a des informations que des jeunes n'ont pas forcément. Par exemple, les jeunes de moins de 18 ans ne savent pas qu'ils ont le droit de fonder une association, par exemple. Ils ont peut-être cette idée, mais ils pensent pas avoir le droit. Donc, j'ai remis à des informations légales sur le sujet. Et puis, des idées concrètes, des outils concrets pour faire avancer les choses à son niveau, même si on n'a pas 1 million d'abonnés sur Instagram ou je ne sais quoi.
Et est-ce que... Je le dis pas méchamment, mais est-ce que se focaliser sur les initiatives individuelles à travers une série de portraits, d'une certaine manière, est-ce que c'est pas occulter ou ne pas mettre en avant la responsabilité que peuvent avoir les institutions, que ce soit des gouvernements ou des grandes entreprises, dans les problématiques qu'on peut rencontrer, sans forcément faire un livre qui s'appelle « Abolir le capitalisme ».
Non, mais alors bien sûr, c'est un petit peu la problématique qu'on a depuis la création des Restos du Cœur. Hein. Tout le monde le sait, c'est formidable ce qu'ils font comme travail, mais on aimerait qu'ils aient pas à le faire. Et effectivement, les gouvernements et les États, s'ils faisaient correctement leur travail, tous ces jeunes n'auraient pas à prendre finalement la parole, à prendre leur place et à avancer pour s'occuper de ça. Et ça, je suis entièrement d'accord avec vous. C'est pas... Quand on y pense, d'un point de vue philosophique, c'est pas un jeune de 15 ans de se battre pour que son village ait l'eau potable ou que sa planète ne soit pas polluée quand il sera adulte. Ça, j'en suis complètement convaincue. Mais le fait est que malheureusement, c'est comme ça. Et qu'on est dans un monde où ce sont les adultes qui ont le pouvoir. Et pour une fois que j'avais l'occasion de redonner la parole à des jeunes qui veulent pas se laisser faire et qui veulent pas attendre leur tour finalement pour profiter de la planète et de tout ça et qui prennent les choses en main, je trouve ça quand même formidable. Mais on est complètement d'accord sur le fond en disant que j'aurais préféré ne pas avoir à écrire ce livre.
Tu l'as évoqué un peu au début de cette discussion. D'une manière générale, pour la suite, tu es optimiste en voyant justement cette jeune génération aussi impliquée.
Alors, c'est vrai que moi, quand je l'ai écrit, ils m'ont vraiment boosté. Enfin, d'un point de vue personnel, ça a été hyper inspirant de lire des choses sur eux, de les écouter faire des discours ou des vidéos, ou de décortiquer leurs comptes sur les réseaux sociaux. Ça a été hyper inspirant. Je me suis dit, mais voilà, c'est des jeunes. Alors, même, enfin, n'importe quel âge, de toute façon, c'est énorme ce qu'ils font, quoi. Et je me dis, avec des jeunes comme ça, on peut que aller dans le bon sens. Mais on vient d'en parler. S'ils sont obligés de prendre autant de colère, de voix et de se faire entendre, c'est parce que justement dans notre sens il y a beaucoup de résistance. Et sincèrement, je sais pas dans quel sens ça va aller. On parle souvent du monde d'après avec cette histoire de pandémie, de confinement, le monde d'après. Bon, pour l'instant, moi je trouve que le monde d'après ressemble beaucoup au monde d'avant. J'ai envie d'être optimiste parce que j'ai des enfants et que voilà, je crois que quand on a des enfants, on veut être optimiste pour eux, mais je ne sais pas. Je ne sais pas si on va vraiment avoir, nous, en tant qu'adultes, la sagesse d'écouter ce que portent les jeunes aujourd'hui. On devrait.
Et si on veut donc se procurer ton livre, est-ce qu'il y a une plateforme ou des boutiques qui sont pour toi un moyen un peu plus privilégié et qui t'apportent peut-être un peu plus que d'autres? Est-ce qu'il y a un réseau ou un site spécialement où trouver ton livre?
Alors moi, mon livre, il est distribué par un éditeur, donc où que vous l'achetiez, il coûtera le même prix. Et moi, je toucherai la même chose, et tout le monde touchera la même chose. Donc ça change pas pour moi. Mais c'est vrai que je conseille toujours d'aller vers les librairies indépendantes. Surtout que bon, après 2 mois de fermeture de librairies, les pauvres, elles ont un petit peu du mal à se remettre à pied. Donc si vous pouvez aider les librairies locales, donc à Angers, on a bien sûr la librairie Contact ou la Fadel, qui est assez spécialisée dans la jeunesse. Ça, c'est vraiment des librairies de cœur, on va dire, mais il est disponible partout. Il est disponible à la FNAC, il est disponible sur toutes les plateformes et même sur le site de l'éditeur directement, thebooksupérieur.com. Il faut savoir que depuis la réouverture, donc la fin du confinement et la réouverture des entrepôts et des distributeurs, toute la chaîne a un peu du mal à se remettre en route et parfois il peut y avoir des ruptures de stock sur des livres, mais voilà, il faut être patient, mais ça revient peu à peu.
C'est noté, je remettrai le lien vers le site de l'éditeur sur la page de l'émission. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions.
Merci Thibaut, merci beaucoup.
Et quant à nous, on se retrouve juste après Moody Man et le titre « Let me show you love ».
Let me show you what it is, what it feels, where you're going, what you're doing.
Le Pédalo sur Radio Campus Angers.
Et voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux pédalos. Et sachez également que dimanche, toute la journée, se tient la fête de la musique depuis le Grand Théâtre d'Angers. Le Grand Théâtre est bien sûr fermé au public, mais vous pourrez retrouver tous les concerts de 15h à minuit, à la fois sur un stream mis en place sur internet, mais également sur nos ondes. Je serai moi-même présent sur place pour présenter les différents groupes tout au long de cette journée. Voilà, restez donc branchés, vous pouvez retrouver la programmation sur les réseaux de la mairie. On se voit donc dimanche et sur les ondes, on se retrouve également la semaine prochaine pour de nouveaux pédalos. Très bonne soirée à tous.
Une émission à retrouver en podcast sur le www.radiocampusangers.com.